les podcasts de Bien en Périgord. À l'initiative de la loge Les Trois Roses, la grande maîtresse de la grande loge féminine de France était à Périgueux pour une conférence samedi 21 février 2026. Brigitte Palancher, présidente des Trois Roses.
Nous allons fêter nos 50 ans l'année prochaine d'existence. Nous sommes nés en 1977, au mois de mai. Et sur la Dordogne, il y a eu trois associations féminines, dont une à Bergerac, une à Sarlat et nous-mêmes à Périgueux, les Trois Roses.
Liliane Mirville, grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France.
Moi, je suis franc-maçonne depuis une trentaine d'années. J'ai pris mes fonctions de grande maîtresse en juin 2024. J'ai un mandat de 3 ans renouvelable chaque année. Là, je vais représenter ma candidature à 3e année. Voilà. Et dernière année, que je suis à la tête d'une obédience maçonnique, spécifiquement féminine. Nous travaillons entre femmes exclusivement, mais on est ouverte aussi, on accepte que des frères viennent nous rendre visite, également de sœurs d'autres obédiences. Alors, la Grande Loge Féminine de France compte aujourd'hui 454 loges au niveau national. Alors, nous avons des loges dans l'Hexagone, nous avons des loges en Outre-mer, nous avons des loges à l'étranger, et les loges sont réparties sur 5 continents. Donc, le seul continent où il n'y a pas de loge, c'est en Asie.
Tout d'abord, un peu d'histoire pour retracer l'évolution de la Grande Loge Féminine de France.
Elle fête ses 80 ans, mais elle a été créée le 21 octobre 1945. Avant 21 octobre 1945, y avait des femmes qui étaient initiées dans des loges masculines, qu'on en appelait des loges d'adoption. On était adopté par les frères. On était dépendant des loges masculines, mais bien souvent, notre rôle était cantonné à de la bienfaisance. Les femmes de la Grande Loge Féminine de France, bien sûr, ont voulu leur autonomie. Il y avait une loge qu'on appelle le Libre Examen, qui est la loge numéro 1 de la Grande Loge Féminine de France, qui était sous la coupe des frères. Ben, les sœurs ont initié 8 femmes. Elles ont osé le faire. Et à partir de ce moment-là, la Grande Loge de France, c'était l'obédience sous laquelle on était souchés, le grand maître à l'époque, nous a autorisé de devenir autonome et indépendante. D'où le 21 octobre 1945, nous avons créé les pionnières, elles ont créé donc l'Union maçonnique féminine de France, UMFF, qui a changé de nom en 1952, qui est devenue Grande Loge Féminine de France. Il faut savoir, au début, quand on a créé, il y en avait 5 loges avec 100 sœurs. Aujourd'hui, 454 loges avec plus de 13 000 sœurs. Notre obédience est la plus grande obédience au monde, exclusivement féminine et la plus ancienne. Nous travaillons dans la tradition maçonnique. Elle est en phase avec la modernité de notre siècle.
Initiation, travail, de quoi s'agit-il au juste ?
Notre obédience est un ordre initiatique, traditionnel et une alliance qui est fondée sur la fraternité. Alors, c'est un ordre. Pourquoi ordre ? C'est simplement le fait que nous avons... Nous ne sommes pas un couvent de bonnes sœurs. Nous ne sommes pas une secte, nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas le Rotary, d'accord ? Nous avons un ordre qui a mis en place un certain nombre de règles applicables à tous les membres de façon à vivre dans la concorde et la fraternité. Ordre initiatique, que ça veut dire ? Ça veut dire que pour être franc-maçon au sein de la Grande Loge Féminine de France, il faut être initié. L'initiation, c'est une cérémonie particulière que je ne peux pas décrire, parce que c'est une cérémonie, il faut la vivre pour bien la comprendre. La GLFF est également donc un ordre initiatique traditionnel, mais qui a comme devise liberté, égalité, fraternité, moi je rajouterais solidarité. La Grande Loge Féminine de France fait sienne la devise de la République. La Grande Loge Féminine de France, elle est adogmatique et apolitique. Nous acceptons toutes les croyances, on n'en demande aucune, et on s'immisce dans aucune question politique. Nous travaillons dans la tradition maçonnique, qui est une tradition universelle, et nous travaillons un peu comme les frères, dans différentes obédiences, avec des symboles, avec des rites, des rituels. Et tous ces outils nous permettent de travailler sur soi, ces symboles nous permettent de travailler sur soi, de se perfectionner, et nous permettent aussi de réfléchir entre nous, entre femmes. Les initiations sont faites par des femmes, pour des femmes. La démarche initiatique que nous proposons s'appuie sur nos valeurs humanistes. J'y tiens beaucoup, sur la tolérance, la liberté, le respect d'autrui et respect de soi. C'est une obédience qui s'ouvre à celle qu'ils souhaitent venir chez nous. C'est la raison pour laquelle nous effectuons au niveau international, puisqu'on a des loges un peu partout, dans 13 régions, nous effectuons des conférences publiques, des colloques, des journées portes ouvertes. Ça veut dire qu'on ouvre les temples une journée, on montre au public qu'est-ce que c'est qu'un temple et comment nous travaillons. Alors, ce que l'on fait particulièrement sur Paris, les journées portes ouvertes qui suivent les journées européennes ou les journées du patrimoine, c'est-à-dire qu'après on fait de la publicité, c'est-à-dire qu'il y a des profanes, des non-maçons, même des non-maçonnes et des non-maçons qui viennent, on leur fait visiter les temples. On a par exemple à Paris une belle vitrine et des collections des médailles. À chaque fois, effectivement, que l'on crée une loge, on a une médaille. Donc, on a toutes les médailles dans cette belle vitrine. Ensuite, on raconte l'histoire. Et on fait quelque chose de très particulier qui plaît beaucoup, puisque moi, j'ai mis en place un questionnaire. On a 94% de satisfaction. C'est-à-dire qu'on leur montre qui nous sommes, comment nous travaillons. C'est-à-dire qu'on prend deux temples. On demande à des maçonnes de présenter deux travaux. Ça peut être un travail sur l'engagement, ça peut être un travail sur la bienveillance, ça peut être un travail sur Joséphine Baker, puisque là on est. Hein, voilà. Donc on a deux temples. Donc on explique un petit peu comment se fait l'entrée dans le temple, qui occupe les plateaux, secrétaire, trésorière, etc. La présidente lance le débat. La conférencière vient présenter sa planche. Après, il y a des questions qui sont posées par les profanes sur les planches. On a enlevé, bien sûr, l'aspect initiatique, hein, parce que bon, ils ne doivent pas comprendre. Et après, on a une oratrice qui fait la synthèse de la planche et des questions. Après, on aborde un deuxième travail de la même façon. Puis après, on clôture les travaux. Et ça plaît énormément. Les journées portes ouvertes qu'on a fait l'année dernière à Paris, on avait presque 600 personnes. La franc-maçonnerie féminine n'est pas un espace occulte. On dit, tiens, c'est mystérieux, qu'est-ce qui se passe dans ces temples, c'est secret. Le secret, en fin de compte, le secret, on ne peut pas le dévoyer, il est incommunicable dans la mesure où le secret, c'est ce que l'on vit, par exemple, lors d'une initiation, comme on le vit. Et ce secret, il est propre à chaque profane qui se fait initier. D'accord ? Donc, on n'a pas, on ne tue pas des enfants, on ne mange pas, on ne boit pas le sang, ça c'est clair, hein ? Mais nous sommes entre femmes et nous réfléchissons sur des thématiques. Nous réfléchissons, nous échangeons dans un espace qu'on appelle sacré, puisque c'est hors du monde profane qu'on appelle sacré. on échange sur des thématiques. Puis je peux vous dire, c'est très intéressant parce que vous avez des sœurs que, enfin, qui ont des idées géniales auxquelles on n'a pas pensé. Hein, et c'est cette façon dont on arrive à avoir une ouverture d'esprit, une élévation intellectuelle. Ces réflexions collectives que l'on mène dans les temples, à chaque tenue, en général il y a deux tenues par mois, ces réflexions collectives et toutes ces valeurs que je viens de vous expliquer, on doit, nous, en tant que francs-maçons, les porter au dehors du temple, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Appliquer les valeurs de tolérance, de liberté, de respect des soi et des autres, des valeurs humanistes que l'on porte à l'extérieur. D'ailleurs, moi je travaillais à l'époque, je ne travaille plus maintenant, je suis à la retraite, mais j'arrivais à l'occasion de réunions de dire, hein, cette personne-là, elle a des valeurs humanistes, elle ne se comporte pas comme d'autres. Exemple, dans un temple, on ne coupe jamais la parole. Dans un temple, la personne qui prend la parole, la demande, elle s'exprime, après elle dit « j'ai dit », et la parole, c'est une autre personne. Donc il y a un respect de la parole, et il n'y a pas de jugement. La sœur peut s'exprimer comme elle le ressent par rapport à une planche qui est présentée, tout ça peut la laïcité, la liberté de conscience, elle peut s'exprimer, mais on ne lui coupera jamais la parole. Et ça, dans le profane, ça, on coupe la parole.
Le fruit des réflexions menées en interne est appelé à être partagé avec la société.
En tant qu'obédience féminine, nous avons des relations avec les institutions, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et quand il y a des sujets de société, nous sommes toutes les obédiences, que ce soit les obédiences masculines, féminines ou mixtes, Grand Orient, Grande Loge de France, droit humain, puisqu'il y a plusieurs obédiences, nous sommes appelés par un ministre pour connaître notre avis sur un sujet d'actualité. Exemple, quand j'ai pris mes fonctions en juin 2024, il y avait la loi sur la fin de vie qui était en train d'être effectivement travaillée par le Parlement. Catherine Vautrin, qui était la ministre de la Santé, nous a conviés et nous a demandé notre position sur la fin de vie. Donc, moi, je me suis exprimée, parce que je suis la voix de toutes les sœurs, sur la fin de vie. La position de la GLFF sur la fin de vie, c'est la liberté de choix. Je veux choisir si je veux aller aux soins palliatifs ou si je veux et faire une aide à mourir. Ça, c'est la position de la GLFF. Bon, ça ne veut pas dire que la loi sera votée de cette façon, puisque bon, il y a des va et des veillants. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a des sujets de ce type, nous sommes consultés. Toutes les obédiences. Alors je me suis retrouvée avec les grands maîtres du Grand Orient, du droit humain, et chacun a présenté sa position sur la partie éthique et bioéthique. Il faut savoir aussi que quand je prends la parole, je suis la grande maîtresse, mais qui est l'expression de la parole de toutes les sœurs. Je ne fais pas mon petit truc dans mon coin. On a mis en place au niveau de la Grande Loge Féminine de France des commissions nationales. Des commissions nationales qui regroupent des sœurs qui veulent bien travailler sur les sujets. Par exemple, on a une commission éthique-bioéthique, on a une commission sur la laïcité, on a une commission sur les droits des femmes, voilà. Donc, évidemment, quand je suis reçue, par exemple, auprès des institutions, je travaille avec les commissions et je leur demande un peu les positions des sœurs. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai la position de toutes les sœurs, moi, je vais la porter haut et fort, donc à l'extérieur, auprès des institutions. Et évidemment, puisque une obédience féminine, nous défendons les droits des femmes. Nous avons la commission des droits des femmes, qui est une commission qui est en état de veille et m'alerte, si alerte, elles ont rôle d'alerte, la grande maîtresse, sur des sujets, s'il y a par exemple la haine en l'égard des femmes, nous faisons des choses comme ça me remonte. discrimination à l'égard des femmes, rupture de l'égalité entre hommes et femmes. Nous avons une action dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est inscrit dans notre Constitution que nous défendons les droits des femmes comme notre attachement indéfectible à la laïcité, liberté de conscience. Au sein de notre obédience, on a créé un institut maçonnique européen qui a été reconnu par le Parlement européen et je suis la présidente de l'Institut maçonnique européen et nous sommes reçus à Bruxelles et nous travaillons dans les commissions à Bruxelles. On peut travailler sur la démocratie, on peut travailler sur les droits des femmes, enfin il y a plein de sujets. Et dernièrement, au 1er décembre, je suis allée à Bruxelles. Ils ont convié toutes les organisations philosophiques non confessionnelles et on a donné notre positionnement sur la polarisation de la société. Ça veut dire concrètement, on a demandé notre avis par rapport, par exemple, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'éducation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, toutes les associations non confessionnelles qui étaient là, on s'est mis d'accord, on est tout à fait d'accord sur le fait qu'on demande un cadre réglementaire au niveau de l'Europe pour arrêter la violence sur les réseaux sociaux et faire en sorte qu'ils mettent en place des règles. Voilà, donc c'était notre demande et on doit être reçu bientôt pour savoir un peu ce qu'ils font. Il y a 13 obédiences féminines avec lesquelles nous avons passé des accords. Nous avons des loges en Belgique, en Italie, en Suisse, enfin, il y en a 13. C'est ce qu'on appelle le CLIMAF, le Centre de liaison internationale à la maçonnerie féminine. Donc on se voit régulièrement. On peut se voir en France, on peut se voir, la dernière fois c'était en Bulgarie. Bientôt on se verra l'année prochaine à Madrid. On se retrouve les 13 obédiences. Et nous travaillons également sur un sujet. Ça peut être la démocratie, ça peut être la dernière fois à Sofia, c'était la violence faite aux femmes. Donc à la suite de ça, il y a des réflexions qui sont menées par les représentantes des différentes grandes loges féminines. Et à la suite de ça, on élabore un petit ouvrage. Nous avons également signé un accord avec les grandes loges d'Amérique du Sud, Fédération américaine du Sud, avec le Chili, avec le Mexique, etc. Et là aussi, elles viennent participer avec les réunions au CLIMAF. Elles viennent participer à ces réunions. Et là, il est prévu une réunion avec elles sur les effets climatiques sur les conditions des femmes. Ça, ça va être au mois d'avril qu'on fait une visio avec elles. À l'issue de ça, il y aura aussi des réflexions qui seront, je dirais, émises, et on va faire un petit livre. Si on compte tous les effectifs de la Grande Loge féminine de France, des grandes loges féminines dans l'Europe, il y a même en Afrique, hein, parce qu'on a des grandes loges féminines au Cameroun et au Bénin, et si on compte également les grandes loges féminines d'Amérique du Sud, en tout, nous sommes 20 000. Nous avons mis en place une démarche initiatique humaniste qui nous permet de suivre à la fois un chemin spirituel, adogmatique et laïque, philosophique ou sociétal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au sein de la Grande Loge féminine de France, on répond aux sensibilités de toutes les sœurs. Les symboles, c'est universel, quelles que soient les obédiences universelles. Par exemple, on prend la règle que vous voyez, c'est symbolise la rigueur. D'accord, la rectitude. Donc tous les symboles qu'il y a dans les temples sont, quelles que soient les obédiences universelles. En revanche, notre obédience peut répondre à différentes sensibilités, c'est-à-dire spirituelles ou philosophiques, ou sociétales. Donc en fonction des motivations des sœurs, on les oriente vers des loges et des groupements. C'est là où se réunissent évidemment les sœurs. Et on peut travailler davantage sur la spiritualité ou la philosophie. Puis d'autres, davantage sur le sociétal, c'est-à-dire tout ce qui est peut-être plus laïcité que d'autres. Nous avons différents rites, nous avons 5 rites au sein de la Grande Loge féminine de France. Et nous avons ouvert dernièrement un rite égyptien. Qu'est-ce qu'une franc-maçonne à la Grande Loge Féminine de France ? Une franc-maçonne à la Grande Loge Féminine de France, c'est une femme ordinaire qui a une exigence en plus. Cette phrase, ça ne vient pas de moi, ça vient d'une passée grande maîtresse, Gisèle Fer. C'est une femme ordinaire avec une exigence en plus. Et moi, je rajouterais que d'être franc-maçonne, c'est une quête de sens, c'est une recherche de ce qui nous manque dans le monde profane. Et je dirais que la franc-maçonnerie, c'est un remède traditionnel à la crise moderne. Au lieu de soigner les mots M-A-U-X, on met en face des mots qui constituent le ciment de l'humanisme.
À l'approche du 8 mars, est-ce qu'on entend aussi la voix des sœurs de la GLFF ?
Nous ne sommes pas un mouvement politique, nous ne sommes pas féministes, mais nous sommes féminines. Et nous, ce qu'on apporte dans la société, c'est des valeurs humanistes. Voilà, donc on n'est pas des pétroleux, nous ne sommes pas des fémanes, mais nous sommes des femmes ordinaires avec une exigence en plus, et on essaye de faire partager nos valeurs autour de nous. Longtemps, les sœurs ne voulaient pas s'extérioriser. Elles ne voulaient pas se dévoiler, et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a connu des périodes sombres de Vichy, tout ça, et c'est vrai qu'il y a eu des sœurs qui ont été comme des frères déportés, et des sœurs qui sont mis dans la résistance. Donc il y a des sœurs qui ne voulaient pas s'extérioriser. Et chemin faisant, on s'est aperçu que on peut dire discrète, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler. Mais par contre, secret, on ne peut pas dévoiler le secret. Donc on est discrète, mais on peut dire les choses. Moi, en tant que grande maîtresse, j'ai souhaité qu'on s'extériorise, et les sœurs, globalement, elles sont favorables au travers des colloques, etc. Bien. Nous faisons des communiqués de presse aussi, qui paraissent sur notre site grand public, glff.org. Le dernier communiqué de presse que l'on a fait, c'est sur l'Iran. Nous faisons aussi, tous les trimestres, un podcast sur France Culture. Et là, pour justement le mois de mars, qui est le mois des femmes, la défense des droits des femmes, moi, j'interviendrai sur France Culture avec la présidente de la Commission des droits des femmes sur le thème, il me semble, c'est 80 ans de l'obédience et les droits des femmes. C'est important pour moi, grande maîtresse, là, de rencontrer les sœurs. Moi, je suis très heureuse de venir ici à Périgueux pour voir les sœurs et d'échanger avec elles. Hein, ça, c'est important. Mais aussi faire rayonner la Grande Loge Féminine de France. On n'est pas, je dirais, un cercle fermé élitiste, parce qu'en fin de compte, la franc-maçonnerie féminine est ouverte à toutes les origines, catégories sociales. La seule chose, c'est qu'il faut être majeur pour entrer. La plus jeune sœur, elle a 19 ans, et la sœur aînée, elle a 104 ans. Donc, ce qui montre bien que, je dirais, que la franc-maçonnerie conserve. Souvent, je le dis, parce que c'est vrai, intellectuellement, oui, parce qu'une fois qu'on ne travaille plus, on continue à aller quand on travaille, on va en loge, et quand on est à la retraite, on va en loge, on écoute, ça permet d'avoir une élévation intellectuelle.
Des valeurs, des symboles, une approche intellectuelle, mais aussi une dimension solidaire.
J'estime que entre maçonnes, on a un devoir de solidarité, d'entraide. Alors, ça se traduit comment ? Si on a une sœur qui a des difficultés financières, on doit l'aider. On doit l'aider au sein de la loge. Ou si vraiment elle a de grosses difficultés, nous avons mis en place un comité d'entraide et la sœur peut demander une aide. C'est un don que l'on fait. Et moi, je ne peux pas supporter qu'une sœur qui est âgée, qui a 40 ans, 50 ans de maçonnerie, démissionne parce qu'elle ne peut plus payer. Ça, c'est pas possible. Hein. Nous avons également mis en place un fonds de dotation Femmes Ensemble. Et je suis la présidente. Et ce fonds de dotation Femmes Ensemble, on récolte des dons, des sœurs, qui peuvent avoir des déductions fiscales jusqu'à 66%. Et on récolte des dons des loges. Et avec ces dons, nous pratiquons l'entraide et la solidarité dans la cité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nous avons financé une association qu'on appelle Camping Care. C'est une association de jeunes bénévoles. Elles ont acheté un camping-car, elles l'ont aménagé avec une douche, à s'occuper des femmes qui sont exclues dans la rue. Voilà, camping-car. Donc, elles vont chercher les femmes dans le 18e arrondissement qui couchent dans la rue. Elles les récupèrent, elles leur demandent. Elles leur donnent des soins, douche, elles les coiffent. Et puis, ces femmes, elles sont très heureuses parce qu'elles... Elles ont à nouveau confiance en elles. Elles ont l'impression qu'on s'occupe d'elles. Elles ne sont pas seules. Et ensuite, cette association arrive à avoir des produits de la part des grandes marques, des sous-vêtements, des choses pour ces femmes, et des produits de beauté chez L'Oréal. Donc, elles aident ces femmes. Alors, Camping Car, il n'y a pas longtemps qu'il est, que cette association l'a créée, et nous avons, grâce aux dons, financé l'achat d'un autre camping-car à Marseille. Et avec les dons, elles veulent également acheter un camping-car à Lille, pour Lille. Donc, nous avons cette action de solidarité à l'égard des femmes, puisqu'on défend les droits des femmes et on se doit d'être solidaire à l'égard des femmes qui sont perdues, qui sont dans la rue. Voilà. On a donné des dons à Mayotte, des dons également au Maroc, quand il y a eu les tremblements de terre. On collecte des dons auprès des sœurs des loges. Donc ce sont des aides que l'on fait, que des dons que l'on donne, qu'on offre pour aider les populations qui connaissent vraiment des grosses difficultés, des crises ou des tremblements de terre ou des inondations. D'ailleurs, concernant les sœurs justement du sud de la France, j'ai fait passer une note auprès des loges pour aider les sœurs qui sont en difficulté, qui ont perdu tous leurs biens. Cette note, elle est descendue aux loges cette semaine.